Après le beau temps en fin de semaine, après les multiples aurores boréales qui ont apparu à la grandeur de la planète, on va dire du Québec, mettons, c'est le temps. On recommence à travailler. C'est lundi, c'est le bon début de semaine que je dois vous dire. Donc, bon début de semaine. On lâche pas. Vendredi arrive très vite, les amis. 6h01. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Actuellement, sur Québec, peut-être un peu de pluie, tout dépendant où est-ce que vous êtes dans la grande région de Québec. 18 degrés, nuageux pour ce soir, minimum de 10 degrés. Demain, mardi, c'est des averses, avec même risque d'orage demain après-midi, entre 5 et 10 mm annoncés, maximum de 16 pour ce qui est de demain. Mercredi, c'est le grand retour du soleil, donc maximum de 21 pour mercredi. Jeudi, ce sera une alternance de soleil nuage avec un max de 20. Vendredi, c'est maximum de 20. Samedi, dimanche, mais pour l'instant, on nous annonce la météo pouette-pouette, donc nuageux pour samedi avec un maximum de 18, mais 60% de probabilité d'averse. Et même chose pour ce qui est de dimanche avec un maximum de 20 degrés. C'est les lundis avec Maître Marc Bellemare. Il est là en direct de son studio personnel. Maître Bellemare, bonsoir.
Salut, ça va bien?
Il est dans sa voiture, vous êtes où précisément là?
Ah, je suis à Sillery, j'ai une vue panoramique sur le fleuve, le majestueux fleuve. Et oui, parce que faire ça de chez moi, c'est plus compliqué. Je suis dans un condo où il y a des murs assez épais, merci, et les ondes rentrent mal. Alors, on a fait quelques expériences déjà ensemble, puis on s'est aperçu que le son n'était pas bon, fait que je suis obligé de sortir, mais en même temps, c'est pas si pire dehors. Effectivement, il y a une petite pluie qui tombe, là, mais je vois des enfants qui jouent au soccer. Là. Il y en a qui trouvent le moyen de s'amuser quand même.
En fin de semaine, Maître Bellemare, j'ai sorti la moto. Je me suis gâté. Bon Dieu qu'on est chanceux de pouvoir faire de la moto à ce temps-ci de l'année. Faisait pas trop froid. Avez-vous déjà fait de la moto, Maître Bellemare, ou c'est trop dangereux pour vous, ça?
Non, j'ai été passager, mais j'en ai pas fait jamais, non, effectivement. Bon, ben je vous annonce mais mon père m'a protégé de ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais m'acheter une moto absolument. Puis il dit non, il dit, garde, tu vas t'acheter une auto, puis je vais te payer des assurances. Les assurances étaient très chères. Alors, ça m'a convaincu d'avoir plutôt un véhicule régulier. Et puis, ben voilà, j'ai pas fait de moto. Et puis, ben je vois des clients, des fois, des accidentés de la route, là. Souvent, je regarde marcher le gars dans le passage, puis j'ai dit, toi, t'as été blessé en moto, hein? Ils sont tous surpris. Oui, parce que la moto, ça brise, hein? Ça brise de partout. Hein? Il boite, il y a un problème de cicatrice dans le front, traumatisme crânien. Quand t'es pas blessé, ça va, mais je vais te dire en affaire, quand tu fais du vol plané, là, tu risques de te retrouver avec des séquelles pas banales.
Ouais, c'est sûr que vous travaillez là-dedans, donc nécessairement, vous les voyez tout passer. Vous avez l'impression que tout le monde qui fait de la moto se plante. Puis oui, des fois, il y a des hasards de la route qui font en sorte qu'on peut être victime d'un accident. Mais souvent, la plupart des gens font attention quand ils sont à moto. C'est pas sans risque, là, mais la plupart des gens se ramassent pas devant Maître Bellemare pour essayer de leur demander de l'aide. Là.
Non, mais j'ai pas peur des motocyclistes, moi. Mais si j'étais motocycliste, j'aurais peur des autos.
Oui, ben c'est notre cas.
Ou des camions, tu sais, c'est ça le problème. Puis la route n'est pas facile. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps où la personne, il y a une roue de la moto qui est rentrée dans le crack, dans le chemin, dans le bout de Pointe-au-Pic.
Ouais.
Et ça a provoqué une sortie de route. Alors, écoute, c'est certainement un sport extraordinaire. Et j'envie ceux qui en font de la moto, comme toi. Mais effectivement, on n'a pas une grosse protection si jamais on rencontre un obstacle important sur la route.
Oui, mais c'est un loisir pour moi. Je ne prends pas ça comme un sport. C'est vraiment un loisir. J'adore ça. Puis c'est comme une impression de liberté. Mais je veux juste vous annoncer, Maître Bellemare, vous êtes bien fin, mais jamais vous allez embarquer en arrière de moi. Vous êtes pas. vous ne me prendrez jamais par la taille.
OK, bon. Parfait, je vais laisser ça à ta blonde, c'est ça?
Ben oui, c'est ça. Maître Bellemare, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans l'actualité, des rassemblements de jeunes, comme probablement que vous en faisiez quand vous étiez autour de 15, 16, 17 ans. Moi, j'en faisais quand on était jeune aussi. On allait régulièrement dans les parcs où on contrevenait aux règlements municipaux, c'est-à-dire que oui, 15, 16, 17 ans, on amenait de l'alcool dans les parcs. Parfois même, on le faisait dans la forêt, puis on se faisait un petit feu et tout ça. On s'amusait. Et ben, de plus en plus, année après année, les policiers intensifient leur présence. Et quand il y a des plaintes de voisins comme quoi il y a des attroupements en face de chez eux, ben, les policiers doivent intervenir. Ça a été le cas en fin de semaine lors de deux occasions. Et dans les deux occasions, ben, les policiers ont dû intervenir. La première, ça a été fortement médiatisé parce qu'on parle d'un jeune homme de 15 ans qui était avec son scooter et qui refusait d'obtempérer aux demandes de la police, c'est-à-dire de se tasser du chemin. Il aurait eu comme intérêt de pousser un peu le char de police pour que lui ne recule pas et que ce soit le char de police qui recule. Les policiers ont avancé un peu, ce qui fait en sorte que son scooter est tombé sur le côté. Le jeune a pogné les nerfs et il est allé frapper sur le véhicule de police directement dans la vitre des policiers. Là, comme on a pu voir sur les images, c'est quatre policiers qui sont intervenus pour clouer le jeune au sol pour pouvoir le menotter. La mère est sortie dans les médias en disant que l'intervention n'avait pas de maudit bon sens, que son fils avait probablement tort à plusieurs raisons, mais elle considère que les policiers sont intervenus trop agressivement envers son jeune de 15 ans. Il y a plein de choses là-dedans qu'il faut analyser. Peut-être la réaction de la mère, on le fera par la suite, mais j'ai l'impression que les jeunes ont perdu l'aspect autorité. Quand un policier te dit « Écoute, tu dois te tasser du chemin, on doit passer », ben tu te tasses et ça finit là. Je comprends pas pourquoi le jeune a décidé qu'avec son scooter, il allait être capable d'avoir le dessus sur un véhicule d'autopatrouille.
Là. Ben ouais, c'est une leçon de vie en quelque part. Il va falloir qu'il apprenne ce jeune-là. Surtout que moi, je veux pas une société qui va être menée par le bout du nez par des jeunes de 15 ans. T'sais, je veux une société qui va être menée par les policiers, par une certaine forme d'autorité. Et je trouve que c'est rassurant. Parce que tout le monde est censé respecter la loi, puis la police qui décide de passer dans le cadre d'un attroupement suspect où il y a des plaintes de voisins, tu te tasses effectivement, tu t'ostines pas, puis je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que ce jeune-là décide, en plus de ça, de se montrer à la face des médias, parce qu'en principe, il bénéficiait de la confidentialité. En bas de 18 ans, là, il se trouve à se montrer avec sa mère, je sais pas. Peut-être qu'il veut attirer l'attention du public, ce qui est certainement réussi, mais la sympathie du public, je pense pas qu'il l'aille parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires aujourd'hui là-dessus. Puis les gens sont... J'ai entendu personne qui était favorable au point de vue du jeune, qui trouve que les policiers ont commis une faute, qui sont allés trop loin, selon la mère. Je pense pas. Je pense que la police est là pour disperser les jeunes. C'est un attroupement illégal, c'est bruyant, c'est une nuisance publique. Puis c'est bien malheureux, mais il faut que tu ailles ailleurs. Puis moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, à peu près à cet âge-là, d'être dans des endroits avec des jeunes. On faisait du bruit, on s'en rendait pas nécessairement compte. Puis écoute, on n'ostinait pas quand on voyait la police arriver, on partait à courir. On pensait surtout à sauver notre peau puis à sauver notre face plutôt qu'à se montrer dans le journal le lendemain.
Parce que ça aurait peut-être été pire à la maison si on s'était fait prendre par les policiers.
Ben non, mais c'est ça. Puis c'est sûr que mes parents m'auraient donné une bonne leçon de vie aussi. Il y aurait certainement eu des conséquences. Alors, je comprends pas, là, c'est le monde à l'envers. Là, ouais. La mère qui sort des médias pour dire que les policiers sont allés trop loin. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les policiers? Qu'ils se mettent à courir et qu'ils laissent le jeune faire?
Ben parce que c'est des techniques. C'est des techniques qui sont enseignées à Nicolette. Puis il y a eu. Ça a été étudié longuement, ça, ce type d'arrestation-là. Quand un policier doit arrêter un autre individu et que l'autre individu ne veut pas se faire arrêter, bien, il y a plus de possibilités de blessures des deux côtés. Ce qui fait en sorte que quand quatre policiers arrivent, oui, c'est impressionnant parce que les quatre arrivent et ils travaillent extrêmement vite, mais il y a moins de chances pour le gars qui se fait arrêter ou la fille qui se fait arrêter de développer des blessures. Parce que là, contre quatre personnes, tu peux rien faire, tu es cloué au sol, puis ils l'ont pas frappé, le jeune. Ils l'ont juste mis au sol à quatre pour être le plus efficace possible. Eux se sont pas fait blesser, puis le jeune a quelques petits bleus. Je comprends pas pourquoi il y a des bleus dans le visage. Là. C'est ce que sa mère semblait dire. En même temps, il y avait un casque sur la tête. Ça doit être assez compliqué d'avoir des bleus dans le visage quand tu as un casque sur la tête. Donc, l'intervention avec quatre policiers, c'est pas mal plus sécuritaire qu'un policier qui est obligé d'assommer quelqu'un pour l'arrêter. Et par la suite, vous l'avez dit, l'erreur, puis c'est une erreur qui est majeure pour sa mère, c'est d'identifier le jeune homme de moins de 18 ans. Lorsque lui va aller chez un futur employeur, puis que le futur employeur va taper le prénom et le nom de famille, il va tomber automatiquement sur ces articles-là.
Ben oui, c'est ça. Alors qu'il aurait bénéficié autrement de l'anonymat. Et ben c'est au fond, je trouve ça un peu bizarre parce que on a l'impression que dans notre société, les policiers devraient, bon, d'abord, devraient pas être armés, devraient pas faire des manœuvres de force. Écoute, quand tu es arrêté par la police, tu te soumets à l'arrestation et tu t'identifies, puis tu suis son cours. T'sais, si tu veux contester l'arrestation ou que tu veux prendre des moyens pour empêcher une peine ou une sentence de quelque nature que ce soit, parce qu'ici, c'est évidemment la loi de protection de la jeunesse, la loi des jeunes contrevenants qui va s'appliquer, c'est un mineur. Mais tu sais, tu as des moyens pour contester ça, mais de résister à ton arrestation, je trouve c'est sûr que c'est inacceptable. Et n'importe quel citoyen doit se soumettre à une arrestation, quitte à pouvoir la contester plus tard.
Par la suite,
mais
c'est ça.
Quand tu regardes, là, on ne sait pas, là, il y a un groupe de jeunes, il y en a qui sont assez colosses là-dedans, c'est pas tous des petits formats. On ne sait pas s'ils sont armés. On ne sait pas s'ils ont pris de la boisson, s'ils ont pris de la drogue, s'ils ont des couteaux, des fusils, on ne sait pas. Alors, le policier doit prendre les moyens. Puis là, il y a eu il a fait un peu obstacle au véhicule automobile et il a donné un coup sur la vitre. En tout cas, il a résisté, puis il y a eu des gestes de violence qui ont été commis. Moi, j'ai aucune sympathie pour ces jeunes-là qui résistent et qui provoque d'une certaine façon les policiers. Puis si on a un système où les policiers n'ont pas de recours puis qu'on peut même pas leur permettre d'arrêter un jeune qui présente des signes de dysfonction, ben on s'en va où? Puis qui va prendre le contrôle dans la société? Puis qui va te protéger, toi puis moi?
Exact.
Si jamais, à un moment donné, dans un parc tout près de chez nous ou dans un stationnement, il y a des jeunes, à un moment donné, qui commencent à avoir des comportements dysfonctionnels, ça prend un système policier.
Ouais.
Puis c'est dans l'intérêt public. Il faut donner aux policiers des outils de base pour que ça se produise plus. Puis dans les parcs, là, moi, j'ai déjà vécu tout près d'un cimetière, tout près d'un parc. Et je veux te dire une affaire, là, l'été, là, c'est l'enfer. Là. Et puis, il y en a qui allumaient des feux, il y en a qui prenaient de la boisson. On trouvait des capotes le lendemain matin tout près des clôtures. Pour les gens qui vivent autour puis qui veulent avoir une qualité de vie, bien, évidemment, la police doit intervenir et je pense que ça s'est fait dans l'intérêt public. Quand je vous regarde, je n'ai pas le fin détail de tout ça, mais moi, personnellement, j'ai aucune sympathie pour ce jeune-là, ni pour sa mère qui intervient. Puis je pense que elle devrait plutôt essayer de profiter de cette situation-là pour y donner une certaine leçon de vie puis faire en sorte qu'il puisse découvrir à 15 ans qu'est-ce que c'est que ce terme autorité.
Oui, bien, Maître Bellemare, on se rejoint un peu à certains endroits. Puis j'adore votre opinion, bien entendu, mais j'ai parlé avec les deux côtés, moi, ce matin. Même la mère, elle m'a laissé un message que j'ai fait entendre sur l'heure du midi concernant, selon elle, ce qui est arrivé alors qu'elle était, elle était pas là, selon ce que son fils lui a raconté tout ça. Mais je vais piger dans mon bagage, dans mon petit sac à préjugés que j'ai toujours à côté de moi. Là, j'ai l'impression que pour la première fois de sa vie, ce jeune homme-là de 15 ans, a eu une figure paternelle en face de lui qui a dit « Excuse-moi, ce que tu es en train de faire là, c'est inacceptable, puis on va t'immobiliser, on va t'amener au poste, puis on va te contraindre le temps que tu ailles assez honte pour plus jamais que tu reviennes ici. » Souvent, les policiers, c'est des bons pères, hein, des bons pères de famille, puis ils font pas par exprès pour se coltailler avec des jeunes de 15 ans. Ça peut être leurs enfants aussi, là, ces jeunes de 15 ans-là. Mais moi, c'est mon petit bagage de préjugés qui me dit « S'il agit comme ça, c'est peut-être parce que l'autorité, il n'en a probablement jamais eu autour de lui.
Oui, c'est ça. Ou bien qu'il y a des parents qui ont toujours pris sa défense face à l'autorité, peu importe la situation. C'est sûr que ça ne doit pas être bien belle fun d'avoir rentré ton jeune
non.
avec des bleus ou d'avoir un appel de la police à 3 heures du matin, je ne sais pas trop, là, ouais. exemple.
Mais après avoir vu les images, ça s'explique peut-être un peu mieux, par exemple, pourquoi il y a des bleus, parce qu'il a résisté à son arrestation.
Ben oui,
j'ai eu cette discussion-là avec mon jeune de 10 ans puis mon autre de 8 ans matin. Puis je leur ai expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Puis mes deux gars m'ont dit, « Mais toi, papa, qu'est-ce que tu ferais dans ces circonstances-là? » J'ai dit, « Moi, je vous laisserai à la centrale de police. » Jusqu'au lendemain matin, vous allez dormir à la centrale de police, puis je vais aller vous chercher quand ça va me tenter. Puis leur premier réflexe a été, hein, ah ouais, tu nous laisserais là? Oui, je vais vous laisser là, parce que si vous êtes prêt à frapper sur des policiers pendant qu'ils vous demandent de vous tasser, ben c'est sûr et certain que vous méritez une leçon.
Ben oui, c'est sûr. Puis de toute façon, regarde, il y a des recours multiples. Hein? Tu peux d'abord contester ton arrestation, contester les amendes s'il y en a. Tu peux te défendre devant une cour de justice si jamais il y a des, une plainte ou une accusation de quelque nature que ce soit, tu peux faire avoir tes arguments, tu peux faire une plainte en déontologie policière, tu peux exercer un recours civil contre la police et contre la municipalité. Tu en as des recours. Tu peux te défendre puis tu peux faire valoir ton point de vue. Mais je pense pas que ce soit une photo sur le web avec une mère qui dit « les policiers sont allés trop loin » que tu vas nécessairement obtenir la sympathie du public. En tout cas, personnellement, je pense que c'est raté de ce côté-là. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à invoquer pour se défendre face à cette arrestation-là. Les tribunaux sont là pour faire respecter la loi aussi de la même façon que les policiers. Alors, le système, c'est comme ça qu'il est conçu. Puis, si tu as une bonne raison d'avoir fessé sur un char de police ou d'avoir entravé le cours d'un véhicule de police qui vient pour assurer une certaine paix sociale, une certaine paix publique, bien, écoute, là, je pense que c'est mal parti. Et c'est un bel exemple à te donner à nos jeunes. Je t'avais déjà sensibilisé au fait là, de cette jeune fille-là à Cap-Rouge, il y a quelques années, qui avait fait une fausse plainte à la police et qui avait dit qu'elle avait été victime d'un enlèvement alors que c'était faux. Tu sais qu'à partir de l'âge de 7 ans à peu près, on est responsable civilement des dommages qu'on cause. Alors, les tribunaux considèrent qu'un jeune, à partir de 7-8 ans, est censé comprendre la différence entre le bien et le mal. Alors, à 15 ans, encore plus. Et puis, dans ce genre de situation-là, à mon avis, pour ce qui est d'attirer la sympathie de la population, c'est raté. Et on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Évidemment, on n'a pas le fin détail, mais comme tu le dis, on a des images. Une image vaut mille mots. Hein? On voit bien que le jeune n'est pas dans son droit. Là.
Prochaine histoire, Maître Bellemare, on revient en 2022. Deux gars qui ont le malheur de se croiser sur la route. Un qui conduit un camion, l'autre qui est à moto. Les deux gars sont intoxiqués et ne sont probablement pas en mesure de conduire l'un et l'autre. Mais le motocycliste semble vouloir faire la morale au gars qui est dans son camion en disant « ben là, toi, tu conduis croche ». La chicane a pogné. Et le gars qui était dans son véhicule, donc dans son camion, a décidé de donner un coup de volant pendant que l'autre était accroché à la portière. Et ben, malheureusement, pour le motocycliste, lui a été projeté sur le bas-côté de la route et il aurait frappé un poteau. Et malheureusement pour lui, il est décédé. Ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que les deux qui se sont croisés sur la route étaient pas en état de conduire, que ce soit un véhicule autoroutier ou encore une moto. Et il est arrivé une tragédie, c'est qu'il y en a un qui est mort. Et le gars qui est dans le camion risque 4 ans et demi de prison.
Moi, ben écoute, moi personnellement, il n'y a pas beaucoup de sympathie de ma part non plus. Je suis sûr que c'est un peu tannant de voir que la victime est intoxiquée. Je serais porté à penser qu'elle l'était moins quand même que l'automobiliste parce qu'il était à moto. Ça ne veut pas dire que tu peux pas. Il n'était pas chancelant. Puis ça a l'air que le motocycliste a vu que l'automobiliste avait une conduite erratique. C'est là qu'il est intervenu pour essayer d'y demander de se tasser. Et l'autre, il a pogné un peu les nerfs, il a reculé, etc. Puis il a frappé le motocycliste qui était débarqué de sa moto. Et l'individu est décédé. Alors, c'est carrément un acte criminel. Il conduit sous l'influence de drogue et pas n'importe laquelle. Alors, moi, c'est pas le nombre d'années. Je pense qu'il mériterait d'avoir un 4 ans, 4 ans et demi de prison. Si on se fie sur la jurisprudence, c'est-à-dire sur les jugements qui sont rendus par les tribunaux en semblable matière, le fait qu'il y ait eu une altercation verbale avec le motocycliste, à mon avis, ça n'a pas vraiment d'importance parce que tu n'as pas le droit de causer la mort de quelqu'un parce que tu t'ostines avec. Là. À un moment donné, il y a des limites. Là. Il n'y a pas de légitime défense. L'individu n'était pas menacé, l'automobiliste. Il n'a pas plaidé non plus la légitime défense. Alors, c'est carrément un acte criminel qui a causé la mort en automobile. Alors, moi, je souhaite que ça soit une peine assez sévère. Je pense que 4 ans, ça ne sera pas exagéré. Mais ce qui me surprend, c'est que la Couronne demande 5 ans de suspension de permis de conduire. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'après un acte criminel au volant, peu importe la durée de la peine de prison ou de pénitencier, je comprends pas comment on peut se contenter de 5 ans sans permis de conduire. Il me semble que c'est pas beaucoup.
Vous auriez donné plus?
Ben oui, mais écoute, moi, je pense que... Tu vois, en Ontario, là, trois cas d'alcool au volant, là, t'as pas tué personne. Là. T'es juste que t'as pris de l'alcool plus haut que la limite permise de 0.08. Trois cas d'alcool au volant, t'as une suspension à vie de ton permis de conduire. Alors, puis au Québec, je regarde ça, là, un acte criminel, 5 ans, il me semble que c'est pas beaucoup, tu sais. Ce gars-là, dans 5 ans, va recommencer à conduire, puis là, on sait très bien que les services policiers sont pas en mesure d'identifier tout le monde dont les permis sont suspendus. Tu le sais comme moi, c'est un secret de polichinelle. Il y a plein de gens dont les permis sont suspendus qui conduisent quand même. Je dis pas que ça va être le cas de ce gars-là. On le saura jamais. Mais on peut pas tout contrôler sur la route. Mais de toute façon, 5 ans de suspension de permis pour avoir causé la mort de quelqu'un criminellement en automobile sous l'influence de drogues dures, personnellement, je trouve que c'est pas assez. Donc, et il me semble que la couronne aurait pu demander plus parce que ce gars-là, on peut le recroiser n'importe quand. Puis je comprends qu'il y a des regrets puis qu'il pleure quand il est condamné puis qu'il veut avoir la clémence de la cour. Là. Mais la suspension de permis, c'est pas la peine comme telle, c'est la prévention. C'est-à-dire s'assurer que ce gars-là ne sera pas sur la route pour les 5 prochaines années. Il me semble que c'est pas beaucoup pour avoir causé la mort criminellement sous l'influence de drogue. Personnellement, là, j'aurais donné plus que ça.
Maître Bellemare, je regarde ce qu'avait le conducteur dans le sang. On parle de coke et de THC, donc c'était coke et marijuana. C'est un beau petit cocktail quand on conduit. Et l'autre, le chauffeur de moto qui est malheureusement décédé, lui, il avait dans son sang, là, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, là, de la méthamphétamine, du citalopram et du THC. Donc, lui aussi avait fumé un peu de weed. Donc, ça, c'est selon les rapports toxicologiques. Quand on lit ces affaires-là, on se dit, on est-tu les seuls, coudonc, qui ne sont pas sous sa route ou qui ne sont pas intoxiqués sur la route?
Non, mais du citalopram, je ne sais pas, c'est peut-être une médication aussi pour contre l'anxiété ou contre je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas nécessairement des drogues. Il y a des médicaments qui sont administrés légalement là-dedans. Je ne sais pas si lui, il prenait ça comme des pinottes, comme une forme de drogue. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que, d'après ce qu'on raconte dans la dépêche, là, que le motocycliste avait noté une conduite erratique de la part de l'automobiliste, puis il avait demandé de se tasser sur le bord. Ça veut dire que le gars qui avait pris de la coke, là, il roulait tout croche dans le chemin aussi. Ouais. Alors, ça aurait pu être toi qui aurait été victime de cet accident-là. Ça aurait pu être moi, là. On ne sait jamais, mais tu sais, quand tu es rendu en 2022, parce qu'on parle d'une infraction d'il y a 2 ans, en 2022, tu conduis sous l'influence de coke, un véhicule moteur au Québec, sur les chemins publics, tu as un sérieux problème face à l'autorité, tu as un sérieux problème de respect de la loi. Et moi, ces gars-là, je pense qu'on devrait tout faire pour les sortir du réseau routier le plus longtemps possible. Si tu n'as pas compris, avec tout ce qui se dit comme mesures préventives, avec toutes les publicités qu'on fait autour de l'alcool au volant, de la drogue au volant, je pense que c'est un irresponsable et je pense que ça mériterait beaucoup plus de sévérité que ça. Personnellement, tu l'as dit tantôt, moi je rencontre des victimes d'accidents d'automobile à tous les jours, puis ces gens-là qui sont blessés ou qui sont tués, souvent ils se retrouvent au bureau chez nous. Et je trouve ça tellement pathétique, puis je me dis, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça et qui causent des décès dans ces circonstances-là. C'est toujours pour moi une grande surprise.
On me dit que le citalopram par texto, c'est pour les gens qui font des dépressions.
Oui, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une consommation excessive ou erratique. Je ne sais pas, mais le citalopram, écoute, j'ai beaucoup de clients qui prennent ça. Et qui sont, c'est un antidépresseur, c'est un anxiolytique, c'est une médication que bien des gens prennent, puis ça ne les empêche pas de conduire. Ouais, là. Mais peut-être que les échantillons sanguins ont démontré qu'ils avaient consommé, puis qu'il y avait un cocktail.
Mais
dans quelle mesure ça constitue en soi un acte criminel, on ne le saura jamais, parce que la victime qui est décédée ne sera jamais poursuivie pour ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait conduit sa moto avec les facultés affaiblies? J'en ai aucune idée. C'est pas ça qui est invoqué. Ce qui est invoqué, c'est qu'il y avait une consommation dans le sang du motocycliste, mais je ne pense pas que la défense ait invoqué le fait que cet individu-là était intoxiqué ou qu'il présentait des signes de déficience au niveau de la conduite de sa moto.
D'Agostino, c'était
du citalopram, comme on a dit, de la méthamphétamine puis du THC. Je ne suis pas un chef cuisinier là, pour ce qui est des narcoses, là. Mais ouais. C'est de la méthamphétamine puis du THC. Ça me surprendrait que ce soit prescrit très souvent.
C'était certainement pas sous ordonnance.
Non, c'est ça. Ben, ouais. Oh boy, il s'en passe
Dieu son arbre.
Oui, c'est ça. Avez-vous vu ça passer que le maire de la Ville de Québec a demandé de l'argent supplémentaire à la Société d'assurance automobile du Québec pour combler le déficit en transport en commun?
Ben, il veut pas taxer trop, hein? C'est un petit peu ça son...
Ben, en fait, il veut que notre cote qu'on donne à la Société de l'assurance automobile du Québec, il veut qu'elle augmente parce qu'elle n'aurait jamais été indexée. Là-dessus, il a raison. Mais n'en demeure pas moins que la Société d'assurance automobile du Québec, on avait créé ça en 77, 78, 79, dans ces eaux-là?
Ben, la loi sur l'assurance automobile est en vigueur depuis le 1er mars 78.
78?
Oui, à l'époque, on appelait ça la Régie de l'assurance auto. C'est devenu la SAAQ, mais c'était au début la Régie, la RAC.
Puis au départ, l'idée, c'était de se faire une caisse commune?
Oui, c'est de se faire une espèce de mutuelle d'automobilistes pour indemniser les victimes. C'était un peu le but de ça. Puis il y avait le Bureau des véhicules automobiles à l'époque, le BVA, qui a été comme intégré à la Régie de l'assurance automobile et qui est devenu un organisme public qui s'occupait d'indemniser les victimes, mais aussi d'administrer l'ensemble de la sécurité routière, tous les permis de conduire, etc.
Puis là, c'est devenu un bras provincial pour le gouvernement qui permet maintenant à la Ville de Québec ou encore la Ville de Montréal de piger encore plus dans les poches des automobilistes. Particulier, hein, qu'ils soient devenus des perceveurs de taxes.
Oui, c'est ça. C'est devenu effectivement. Et c'est pas nouveau parce que même des années 90, la Société d'assurance automobile qui a commencé son fonctionnement le 1er janvier 90 avait des surplus immenses dans sa caisse. Il cotisait beaucoup plus les automobilistes que les besoins qu'il y avait pour indemniser les victimes. Et c'est pour ça qu'il y a eu des surplus importants qui ont été enregistrés, encaissés par la Société d'assurance automobile. Puis encore en 2022, le ministre Bonnardel, qui était le ministre des Transports, a voter une loi qui permet aux victimes d'accidents d'automobile maintenant d'être indemnisées à vie, les invalides, pour un petit montant. Ils ne sont pas payés plein salaire pour le reste de leur vie, mais il y a quand même une petite allocation qui est versée après 68 ans, parce que le ministre avait enregistré des profits en 2022 de 4 milliards de dollars. Alors, ça a l'air que ça va assez bien de leur côté. Puis que le maire Marchand veut avoir une partie de la tarte, là, je comprends ça. Je ne sais pas s'il va l'avoir, mais il doit bien flairer qu'il y a de l'argent dans la caisse. Là.
Je sais pas, mais nous autres, on se considère des fois comme des citrons quand on s'aperçoit que ces gens-là veulent nous presser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Là. Ils nous retirent tout le peu qu'on peut avoir. On va faire une courte pause, Maître Bellemare, 18h28. Vous avez des choses à nous dire. Je vous rappelle que ce soir, on est avec Maître Marc Bellemare. Vous avez des questionnements. Dossier de SAAC, DIVAC, de CNESST, on peut répondre à vos questionnements. 418-971-1021 par texto. On s'arrête et on vient. 418-971-1021, 418-971-1021, espérant que vous passez un bon début de soirée. On est avec Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Maître Bellemare, ça va toujours bien dans votre studio personnel en direct de Sillery? Maître Bellemare, est-ce que vous m'entendez? Il est-il parti? On va aller voir où est-ce qu'il est rendu. Les technologies.
Oui.
Oui, vous êtes là, M. Bellemare? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Il ne m'entend pas. Attendez un petit peu. Oui, vous m'entendez, là? Maître Bellemare? Bon, moi, je le vois. Est-ce qu'il m'entend?
Oui, ça va, bien sûr.
Vous m'entendez? Bon, vous êtes de retour.
Bon, bravo. Oui, bon, excuse-moi.
On fait de la radio live, ça arrive. Maître Bellemare?
Oui, c'est ça.
Il y a dans l'actualité, puis en passant, faut le dire, là, quand ça arrive, Journal de Québec, surtout Taïeb Moala, fait vraiment, vraiment, vraiment une belle job. Et il a réussi à mettre la main sur une vidéo. Et dans cette vidéo-là, on voit le chef du syndicat des cols bleus de la Ville de Québec. Son nom, c'est Luc Boissonneau, qui explique à ses membres comment faire ralentir le travail, entre guillemets, naturellement, mais sans le faire de façon officielle. Je ne savais pas qu'il y avait une loi au Québec qui interdisait au syndicat de ralentir le travail?
Oui, le code du travail, mais plus que ça, c'est que c'est du vol de temps. Hein?
Ah, c'est carrément ça, mais en fait, en même temps, si on ne l'avait pas entendu sur vidéo, on aurait peut-être pu en douter, mais là, on a vraiment la preuve que parfois, on essaie de ralentir le travail intentionnellement. Là.
Ben moi, on m'a souvent raconté dans le personnel syndiqué que des gens trop performants, ça agace, tu sais. Quand tu es dans un, je sais pas, en fonction publique ou dans une municipalité ou un hôpital, puis que tu es zélé, puis que tu donnes du temps, puis que tu travailles un petit peu en dehors des heures régulières, puis que t'es quelqu'un qui donne vraiment, qui est généreux de son temps, ça fait mal paraître les autres. Et puis, des fois, ça va créer de la zizanie. Moi, un de mes frères a travaillé dans un hôpital pendant plusieurs années, puis c'est ce qui se faisait reprocher. Les autres trouvaient qu'il était trop zélé. Fait que t'as comme une espèce de nivellement par le bas, là. En tout cas, je sais que dans certains milieux de travail, ça se pratique. Mais là, cette vidéo-là, c'est tout à fait dévastateur pour l'École bleue de la Ville de Québec, là. Écoute, ça n'a aucun bon sens. J'espère que le maire va sortir là-dessus. Puis à la limite, là, la Ville a des recours contre le syndicat, là, pour obtenir une forme de compensation. Moi, je paye des taxes à Québec, là. Puis ça m'écoeure d'entendre ça, là. Ça veut dire que les taxes, au fond, sont là pour payer des employés qui font exprès pour ralentir le rythme de travail puis diminuer la prestation au service des citoyens. C'est inacceptable.
On va l'écouter ensemble, Maître Bellemare.
Ce matin, oui. On commence par inonder les ondes. Ça veut dire qu'arrêtez de prendre des décisions. De finir ton travail. Hey, patron, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? T'attends. OK? Actuellement, il y a beaucoup de monde qui passe en discipline parce qu'ils prennent des décisions à la place du boss. OK? Fait que c'est important, il y a de quoi? T'appelles, OK? Par quoi? Par les ondes téléphoniques. Les gens des immeubles, les gens des usines. Faut que t'as fini ta job. Hey boss, qu'est-ce que je fais? On va ralentir le travail de cette façon-là parce qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit officiellement de ralentir le travail. OK? En fonction du Code du travail du Québec, OK? On ne peut ralentir de façon officielle, ça veut dire rien faire. OK? Ça, on n'a pas le droit. Mais la façon de le faire est très simple. On prend le côté légal, puis on va faire ce qu'ils nous demandent de faire. C'est quoi? Écouter nos patrons. OK? Hey, boss, qu'est-ce que je fais? OK? Je m'en vais, je vais prendre un exemple bien simple. Je m'en vais, il donne, va ramasser du tuteur au 24,90. Ben, je m'en vais ramasser du tuteur au 24,90. Mais s'il y a un tuteur au 24,80, t'as pas dit de le ramasser, mais tu le ramasses pas. Ils te retourneront le ramasser. C'est plein de petits exemples comme ça. Gang de Charlebourg qui ont eu 12 trocs sans moyen de communication, mais tu prends pas ton cellulaire, vous lâchez votre Christie cellulaire, c'est bien important. Ils viendront voir où vous retournerez au garage, puis comme ça, on aura plus de voyagement et ça va faire ralentir le travail naturellement.
Parfois, ce qu'on peut entendre dans les vidéos, on peut se dire des fois que ça peut servir de test de QI. Là.
Ouais, puis le journaliste, il aurait peut-être pu confronté en disant, il paraît que vous dites à votre monde d'essayer de ralentir le rythme de travail. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit penser que c'est vrai? Il paraît qu'il y a des syndiqués qui nous ont dit ça, puis il aurait peut-être pu se faire prendre des culottes à terre, là, tu sais. Parce que le journaliste avait le tape, mais Boissonneau le savait probablement pas, parce que c'est certainement quelque chose qui était à l'intérieur des murs du syndicat.
T'aimes-moi là, contacter Boissonneau, qui, lui, s'est limité à dire que ça relève de la régie interne du syndicat. Il dit, je refuse de commenter la vidéo parce que c'est de la régie interne. La ville, par rapport à cette vidéo, a backtracké. C'est assez clair, ça, c'est lui qui dit ça. Ils ne sont pas capables de rien prouver. Il n'y a pas eu de ralentissement de travail. Ça, c'est Boissonneau qui mentionne ça. Mais moi, en tant que payeur de taxes, là, un col bleu comme ça, je veux plus que ça travaille pour moi, là.
Ben, c'est sûr. C'est sûr. Ben, lui, c'en est un col bleu, là. Je ne sais pas si la ville peut prendre des mesures, mais au moins, le maire Marchand qui ne se fait pas trop prier de faire des sorties publiques, c'est sûr que peut-être qu'il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu non plus, parce que je pense que la convention collective est échue depuis le mois de décembre, là. Donc, ils sont en principe dans une espèce de négociation avec le syndicat, mais il reste que moi, comme payeur de taxes, je me sens cocu là-dedans.
Ben, je ne suis pas le seul. Là. Il y a énormément de réactions qui m'arrivent sous mes yeux actuellement. Les gens sont fâchés d'entendre le président du syndicat qui mentionne ça, qui mentionne à ses travailleurs. Techniquement, j'ai pas le droit de vous dire de ralentir le travail, mais voici de quelle façon le faire.
Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est une vidéo, c'est un chef syndical. C'est certainement une erreur grave de sa part d'avoir dit ça. Puis c'est une erreur encore plus grave de l'avoir mis sur vidéo. Écoute, ça prend un gars qui a un manque de jugement consommé là, d'aller soumettre ça. Parce que même si on n'est pas en mesure d'identifier clairement que tel ou tel col bleu a ralenti le travail, tu comprends bien qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. Écoute, c'est le directeur du syndicat, c'est le président du syndicat qui invite ses membres à faire ça. Puis après ça, il va nous dire quoi qu'il n'est pas écouté. Alors, c'est assez spécial, là. C'est pas correct. Maintenant, je pense que c'est au maire de la Ville de Québec de mettre les pendules à l'heure et de réagir par rapport à ça. Je pense que les payeurs de taxes, dont le M. Marchand dit se soucier tant que ça, là, devraient être assurés par rapport à la position du plus important syndicat de la Ville de Québec.
Maître Bellemare, on passe au prochain sujet. C'est un article qui est disponible sur Droit Inc. Où on parle de l'affaire Juste pour rire, donc l'entreprise Juste pour rire. La Cour d'appel se penche sur la question de l'emploi à vie. Mis à part dans la fonction publique, je pensais pas que ça existait pour de vrai.
Non, mais c'est ça, c'est Juste pour rire. C'est Gilbert Rozon qui avait promis à un de ses employés, à une certaine époque, qu'il serait à vie au service de Juste pour rire. D'une des corporations d'humour là, que Rozon dirigeait. Et à un moment donné, ce gars-là a perdu sa job. Fait qu'il a pris une poursuite devant la Cour supérieure en demandant non seulement qu'il soit réintégré, mais qu'il soit payé pour le reste de sa vie, pour le salaire qu'il avait. Alors, la Cour supérieure lui a donné raison puis a ordonné sa réintégration. Maintenant, ça a été devant la Cour d'appel. Et la Cour d'appel a dit non, les tribunaux civils ne peuvent pas ordonner la réintégration d'un salarié, même si le congédiement n'est pas fondé. Le seul organisme au Québec qui peut ordonner la réintégration d'un salarié injustement congédié, c'est le tribunal administratif du travail. Effectivement, quand tu es congédié, tu peux choisir d'aller au civil ou d'aller devant le tribunal administratif du travail, mais si tu vas au civil, tu ne peux pas demander au tribunal civil, la Cour supérieure, la Cour du Québec, ou la Cour d'appel, de te réintégrer dans ton poste. Et ce qu'a fait la Cour d'appel par rapport au contrat à vie, c'est qu'ils ont condamné Juste pour rire à payer le salaire jusqu'à l'âge de 65 ans.
Hein?
Alors, la Cour d'appel a mis comme 65 ans comme étant l'âge présumé de la retraite. Personnellement, je trouve que 65 ans, moi j'en ai 68 puis je travaille pas mal fort, là. Il y a encore pas mal de monde qui travaille fort, même après 65 ans, mais la Cour d'appel a dit non, 65 ans, c'est assez. Fait que ils ont condamné l'employeur à payer une douzaine d'années de salaire parce que l'individu était dans cinquantaine. Et c'est comme ça que ça s'est réglé. Ça veut dire, finalement, que si vous êtes congédié injustement et que vous avez 2 ans de service continu, vous êtes quasiment mieux de vous adresser au tribunal administratif du travail, qui, lui, a le pouvoir de vous réintégrer dans vos tâches plutôt que d'aller devant la Cour supérieure, dont les pouvoirs sont considérablement limités, voire inexistants en ce qui concerne la réintégration. Par contre, vous pouvez obtenir une indemnité qui peut être peut-être plus intéressante devant la Cour civile si ce que vous recherchez, c'est des dommages-intérêts pour congédiement injuste plutôt qu'au tribunal administratif du travail où les condamnations pour les dommages sont assez minces.
Mais
tout ça pour dire que les emplois à vie, ça n'existe pas vraiment.
Non, je comprends. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment, ça je le comprends. Mais dans son cas, lui, semblerait que c'était une promesse de l'ancien président qui semble avoir eu quelques problèmes des dernières années, vous le comprendrez, comme quoi il allait le garder avec lui dans l'entreprise jusqu'à 65 ans. L'entreprise a été vendue, puis les nouveaux acheteurs de cette entreprise-là qui ont eu des problèmes par la suite au niveau des finances, eux ont dit « Non, mais c'est parce que ton poste n'existe pas. » Fait que le gars s'est battu, puis on va lui donner 10 à 12 années de service qu'il n'aura pas fait chez Juste pour rire. Ça monte au-dessus de 600 000 $ de ce que je comprends, parce que le monsieur gagnait 60 000 $ par année. Mais lui, s'il se retrouve une job dans 2-3 mois, là, qu'est-ce qui se passe? On continue de le payer quand même?
Ah oui, bien sûrement, parce que le montant de condamnation, la Cour d'appel est un montant forfaitaire. On lui a donné une dizaine d'années de plus. Alors, c'est vrai que s'il se trouve une job plus tard, bien, la condamnation est prononcée, puis il va avoir droit à cette affaire-là, à ce montant-là. Probablement que la Cour a considéré aussi que le salaire était pas mal élevé et qu'il y avait moins de chances d'obtenir un revenu comparable au cours des prochaines années. Là, je ne connais pas les détails fins de cette affaire-là, mais c'est probablement ça qui est arrivé. Mais effectivement, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont des dommages-intérêts. Dans les causes de responsabilité civile où tu poursuis quelqu'un parce qu'il t'a causé un dommage, là, mettons que tu es paraplégique parce que t'as glissé dans des marches d'escalier qui étaient mal déneigeantes en hiver, le juge, il va regarder ton handicap pour le reste de ta vie, puis il va te donner un montant qui correspond à la souffrance que tu vas endurer pendant les années qui te restent à vivre. Mais ça se peut, à un moment donné, qu'au bout de 7-8 ans, tu n'en aies plus de douleur. Tu as quand même eu le montant. Ça arrive des fois. Des fois, on fait des projections dans l'avenir qui s'avèrent fausses ou erronées, mais tu sais, c'est 10-15 ans plus tard qu'on va s'en apercevoir. Mais dans bien des cas, les tribunaux sont appelés à évaluer l'expectative, à évaluer l'avenir, puis à donner un montant pour les dommages prévisibles. Alors, ça s'avère des fois que la prévision n'est pas bonne. Des fois, c'est à la hausse, des fois, c'est à la baisse.
Incroyable. Avez-vous vu les statistiques? On parle d'un autre sujet, Maître Bellement, parce qu'on est, on a plusieurs sujets à passer ce soir. Avez-vous vu les statistiques concernant les femmes qui se font étrangler à Montréal par année?
Oui, 6 000. Oui, il y en a 10 par semaine, d'après ce qui est noté. On parle de 500 quelques cas qui sont rapportés à Montréal. On n'a pas de raison de penser qu'à Québec, c'est différent, Yannick. C'est effectivement un problème important et très souvent, l'étranglement ou la tentative d'étranglement d'une femme par son ex, j'espère que c'est son ex, parce que j'espère que les femmes ne reviennent pas avec eux autres, mais souvent c'est traité comme des voies de fait, alors que ça devrait être traité bien souvent comme des tentatives de meurtre.
C'est 10 étranglements par jour.
Par semaine.
C'est
par jour.
Non, vous avez raison. 10 femmes étranglées par semaine. Puis, le service de police de la Ville de Montréal mentionne que c'est 6520 événements qui sont liés à la violence conjugale en 2023. Mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est une plaie, ça.
6500, ça veut dire une centaine de cas par jour. Attends, 6500, 365, ça veut dire à peu près 20 cas par jour. Et des étranglements, il y en a 10 par semaine, ce qui fait à peu près 600 cas par année. Juste dans la région de Montréal, et ça, c'est les statistiques du service de police de la Ville de Montréal. Alors moi, je vais te dire, Yannick, là, la violence conjugale, là, je suis juste plus capable. Là. Moi, je pense qu'on est mûr pour avoir une révision de notre code criminel au niveau des peines, des gars pas de tête, qui s'attaquent à leurs femmes, qui battent les femmes, qui s'attaquent à elles, parce qu'on parle quand même des gestes de violence conjugale, puis ça, je suis convaincu que ça touche pas la violence verbale, ou la violence psychologique, là, parce que on parle certainement de violence physique. Pour que ça soit recensé de cette façon-là, c'est pas juste quelqu'un qui appelle pour dire « mon chum m'a dit que je t'aime ici puis je t'aime ça ». Probablement que c'est des cas de violence physique en plus. Alors, il y en a beaucoup trop, et je pense que on fait beaucoup de prévention, on entend beaucoup de choses, des maisons d'hébergement des femmes violentées, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, l'IVAC, toutes ces mesures-là qui sont prises par le gouvernement, qui sont de nature préventive. Mais malgré ça, Yannick, là, il y a beaucoup trop de cas de violence conjugale et il faut resserrer les mesures du code criminel. On ne peut pas juste agir au niveau de la prévention et faire des annonces à la TV pour dire aux gars « vous n'avez pas le droit de toucher à vos blondes ». C'est aussi, ça prend des mesures coercitives et c'est certain que notre code criminel n'est pas assez sévère de ce côté-là. On serait mieux pour une réforme qui toucherait ce type de geste-là qui est proprement inacceptable. Et écoute, ici à Montréal, on parle de 6500 cas par année. Imagine-toi, pour l'ensemble du Québec, on peut facilement doubler ça. Là.
Bien, c'est parce que j'ose pas imaginer que c'est aussi répandu alentour de moi. Moi, j'ai jamais entendu parler dans mes amis ou dans mes connaissances. J'ai jamais entendu parler d'épisodes de violence conjugale. Bon, peut-être violence psychologique où les deux personnes, les deux conjoints s'engueulent et se disent à peu près n'importe quoi. Ça arrive des chicanes, mais des violences physiques. En passant, je minimise pas les violences psychologiques, mais les violences physiques, je n'ai jamais entendu parler dans mon entourage. Donc, de savoir que c'est plus de 6500 cas à Montréal par année, je suis flabbergasté, Maître Bellemare. Est-ce que les conservateurs pourraient travailler là-dessus lorsqu'ils reprendront le pouvoir?
Oui, j'espère qu'ils vont le faire parce que faut parler aux femmes. pour parler aux femmes et leur dire que l'État canadien, l'État québécois est avec les femmes et protège les femmes. On est porté au Québec à dire très souvent, on est une société tolérante, on est porté à dire on pardonne, on fait de la réhabilitation, on veut faire du grand monde avec des bandits, on veut faire des citoyens honnêtes avec des gens violents. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans n'importe quelle mesure, pour combattre le crime, tu avais la prévention, mais tu avais aussi les peines plus sévères, là, t'sais, la répression. On est gêné face à la répression au Québec. On a de la misère avec ça. C'est un mot qui est un peu tabou. Mais la répression, c'est de la punition, purement et simplement. Tu as fessé ta femme, mais tu vas aller en dedans, tu vas avoir une peine de prison, puis ça s'arrête là. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que là, on est très, très bon dans la prévention. On est bon dans le placotage, mais on s'aperçoit que ça ne règle pas tout. Puis écoute, 6500 cas de dénonciation de violence juste à Montréal, ça donne froid dans le dos. Et puis c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'attaque au volet de la coercition, au volet de la punition associée à ça. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il n'y en a pas assez actuellement.
Puis est-ce que, là, encore là, je pose des questions, puis je m'attends pas à une réponse hyper précise, mais c'est-tu parce que oui, il y a des Canadiens qui peuvent être agressifs envers leurs conjoints, leurs conjointes, mais pour les gens qui proviennent d'ailleurs, on sait que dans certaines communautés, la femme n'est pas égale de l'homme. Ça pourrait-tu expliquer peut-être toutes ces milliers de violences-là qui sont répertoriées? Une partie du
monde? Oui, c'est possible. Je ne sais pas si ça a été ventilé par rapport aux appartenances religieuses, au niveau des ethnies. J'en ai aucune idée. C'est sûr qu'à Montréal, il y a une société qui est en général un peu plus violente qu'ailleurs au Québec. Il y a plus de violence probablement en proportion avec la population. Mais écoute, là, c'est de la violence conjugale, Yannick. On ne parle pas là, d'un voisin qui tape son voisin. Là. On parle d'un gars qui fesse sa femme. Et c'est devenu une forme de criminalité de masse. Là. Un peu comme l'alcool au volant, ces choses-là. Une criminalité qu'on voit de façon régulière et à laquelle, malheureusement, on a tendance à accorder peu d'importance. Quand il y a des féminicides, quand une femme se fait tuer par son chum jaloux, son ex jaloux, ben là, on se réveille et on se dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mais il va peut-être falloir s'attaquer à des crimes qui sont d'intensité moindre. Parce que des voies de fait d'un gars contre sa femme ou sa copine, c'est inacceptable et c'est très souvent le début de la fin. Les féminicides, là, je pense qu'il y a une certaine gradation là-dedans. Le gars qui va tuer sa femme, là, il a déjà posé des gestes de violence avant, là. Je peux pas croire que ça arrive d'un coup sec. C'est pas un coup de tonnerre dans le ciel bleu, là. Il y a eu des gestes de violence avant, puis ça a finalement progressé, puis ça a culminé à un décès ou à des blessures importantes. Puis au bout de la ligne, Yannick, là, comme société, on paye cher pour ça parce que les régimes d'indemnisation de l'IVAC, le temps de prison, le temps que le système judiciaire, la police qui enquête, c'est beaucoup d'argent, là. Et puis, je pense qu'on est mûr pour sévir davantage pour tous les crimes associés à la violence conjugale. On devrait s'intéresser à ça de façon plus précise, puis arrêter de pelleter des nuages, puis juste de parler, mais d'agir au niveau des peines.
Puis les années 30, 40, 50, 60, je comprends que la religion est encore très présente, puis les gens préféraient des fois se mêler de leurs affaires, puis quand ils entendaient la dame crier au meurtre dans la maison d'à côté, bien, ils fermaient la fenêtre parce qu'ils ne voulaient pas entendre la dame. Mais aujourd'hui, 2024, j'espère que les gens dénoncent, là, si les voisins entendent brasser dans l'autre appartement, puis que la femme a crié au meurtre, appeler la police, c'est pas un mauvais réflexe d'appeler la police. La police va juste aller vérifier si tout est beau. Là.
Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien qui oblige un adulte à dénoncer un autre adulte. La loi sur la protection de la jeunesse oblige une personne qui est témoin de maltraitance d'un mineur, d'un enfant, de dénoncer. Si toi, tu sais que une petite fille ou un petit gars à côté de chez vous est victime de sévices ou de maltraitance, tu as l'obligation de le dénoncer. C'est écrit dans la loi de protection de la jeunesse parce que les enfants ne sont pas organisés pour se dénoncer eux-mêmes ou dénoncer leur agresseur à cause de leur état d'infériorité, puis du fait que c'est des mineurs. Mais tu n'es pas obligé de dénoncer un voisin qui s'en prend sa femme et ou qui, si la personne est majeure. Mais très souvent, c'est les services policiers qui vont éventuellement intervenir. Mais je pense qu'il y a une trop grande banalisation parce que, écoute, là, les statistiques donnent froid dans le dos. Il faut vraiment s'intéresser à ça. Et j'espère que le gouvernement conservateur qui, supposément, est bien placé pour prendre le pouvoir éventuellement, va s'attaquer à ça et va dire aux femmes, ben on est de votre bord, pis on va s'occuper des agresseurs, on s'en occupe, pis on va sévir. Je pense qu'on est rendu là.
Effectivement, c'est bien dit. Maître Bellemare, ça a été un plaisir ce soir. On rappelle aux auditeurs que vous êtes toujours disponible pour des dossiers de SAAC, DIVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca.
Parfait. Merci. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, Yannick.
Au revoir. On se reparle pas la semaine prochaine. Maître Bellemare est en congé, ça a de l'air.
Congé, ça va aller dans 2 semaines. Ouais. Bon congé, tout le monde. Belle grosse fin de semaine de soleil.
Je vais m'ennuyer. Salut!
Salut.
Bye-bye. Maître Marc Bellemare, à qui on parle avec à chaque lundi. C'est toujours un plaisir de jaser avec lui. Donc, il va être de retour dans deux semaines. Sinon, ben Marc s'en vient dans les prochaines minutes pour vous accompagner pour une partie de la soirée. Pascal Cévé sera là à 10h demain matin, juste après la belle gang de Rage Against le matin. Et moi, ben, je prendrai le relais avec Pascal à partir d'11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.